Session de philosophie par le père Philippe à Saint-Jodard le 10 juillet 1990.
Il y a pas mal de questions. C'est très bien, ça, pour que les carrefours marchent bien. Il y a des résultats. Je ne sais pas si je répondrai à toutes les questions, mais à quelques-unes pour qu'on voit bien. Il y a une de ces questions qui est, je crois, très importante. Quelle est la première expérience du corps ? Est-ce l'expérience externe ? Je me touche. L'enfant se regarde dans la glace. Vous savez, tu as vu un petit chat qui se regardait dans la glace ? Un tout petit chat, c'est très très joli. Parce qu'il lève la patte, il regarde, c'est très drôle de voir un petit chat. Alors évidemment, pas si, au sens fort, il n'a pas l'expérience, mais l'expérience du corps, c'est... Alors, faisons attention, tout de suite, précision au point de vue méthode philosophique de recherche. Quand on cherche le premier, au point de vue philosophique, on distingue toujours le premier dans l'ordre génétique, et puis le premier dans le sens perfection. Et c'est deux choses tout à fait différentes. Et je crois que c'est important. Le premier génétique. Quelle est la première expérience que j'ai eue de mon corps ? Je ne m'en rappelle pas. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Mais moi, je ne m'en rappelle pas. C'est perdu dans les nuages. La mère pourrait le dire, mais moi, je ne m'en rappelle pas. Je ne sais pas du tout. La psychanalyse prétend retrouver ses premières expériences. Je ne sais pas si c'est tout à fait juste. Je ne sais pas, je crois qu'au fond, le premier dans l'ordre génétique, on s'est éveillé progressivement à une certaine conscience. Alors, est-ce que c'est la nourriture qui était la première expérience du corps ? Ça ne m'étonnerait pas. Ou la respiration ? Très lié à la vie végétative. Hein. C'est pas étonnant. Vous voyez, j'ai voulu tout de suite, moi, analyser. Exprès. Ça vous a un peu dérouté. Parce que l'expérience psychologique, elle est une expérience de ma vie. Pas de mon corps. De ma vie. Et donc ça me conduit à mon âme. C'est vrai, quand je respire, j'ai une expérience de ma vie. Quand je mange, j'ai une expérience d'un être très particulier qui est comme un ogre, un boa. Quand on a très faim, on se jette dessus. Petit déjeuner du matin, on se précipite à toute vitesse. On a faim. C'est quelque chose. C'est une expérience d'avoir faim. Alors, l'expérience de la faim, est-ce que c'est l'expérience de votre corps ? Non. C'est l'expérience que vous dominez la matière, que vous dominez votre corps. C'est pas l'expérience de votre corps, c'est l'expérience vitale. Oui, nos premières expériences sont vitales. Quand le philosophe se pose l'expérience globale, très grosse, de mon corps et une âme, sans préciser plus, je pose la question, en quoi est le corps ? Vous voyez ? C'était l'interrogation. En quoi est mon corps ? C'est pour ça que je suis arrivé à la matière. Mais l'expérience de mon corps, la plupart du temps, elle est enveloppée de toute ma vie. Alors, je peux, réfléchissant sur mes diverses expériences, réfléchir sur l'expérience type de mon corps. C'est la chute. C'est pour ça que j'ai pris la chute. Vous tombez. C'est pas en tant que vivant que vous tombez. Quand vous montez l'escalier, vous ratez la marche, vous dégringolez. Vous croyez que c'est le vivant qui dégringole ? Non, le vivant, il monte. C'est le poids du corps. C'est impressionnant, le poids du corps. Et vous sentez le poids du corps quand vous avez mal aux jambes, très fatigué, le poids du corps. La fatigue, la maladie, mon corps. c'est la souffrance. Je ne crois pas que c'est la souffrance. La souffrance m'éveille à une certaine expérience de mon corps. Vous voyez, c'est le côté négatif. Ça va bien du côté de la chute. Mais ce n'est pas tellement la souffrance. C'est trop affectif, la souffrance, pour me faire comprendre ce que c'est que mon corps. C'est encore trop vital, l'affectivité. Vous voyez, discerner en moi, parce que c'est ça l'expérience du corps, hein. Discerner en moi, c'est pour ça que j'avais dit au début, l'expérience d'abord du corps, partie de l'univers. Puis l'expérience du vivant. Ah, alors vous allez me dire, mais l'expérience du vivant est antérieure à celle du corps. Je suis tout à fait d'accord, génétiquement. Mais dans l'analyse que nous faisons, puisque nous étudions le corps, j'essaie de comprendre ce qu'il y a de tout à fait brutal dans cette première expérience d'une chute. Ce qu'il est lourd, mon corps. Quand un animal tombe sur vous, vous racontez l'autre jour la chute de quelqu'un comme ça. Il était à cheval, le cheval tombe sur lui. Alors là, à ce moment-là, le poids du corps du cheval, vous savez. Au galop, n'avait pas l'expérience de son corps. Et vous, quand vous marchez, pas l'expérience seulement de votre corps. Oui, vous dites oui. Le danseur ou la danseuse maigrissent exprès pour avoir un corps aérien. Et ça, c'est très particulier. C'est un corps qui n'est plus l'expérience première. Il y a tout l'art, tout l'aspect esthétique. Très bien la spiritualité du boulot, mais quand les cheveux commencent à tomber, ça va plus. Parce que tout est dans la pointe. La spiritualité du cèdre, au contraire. C'est une très belle question, ça. C'est pour ça que c'est bien d'avoir posé quelle est la première expérience du corps. Je suis tout à fait d'accord, c'est très bien, ça. Et je l'ai dit que la première, génétiquement, elle est perdue. Et la première expérience dans l'ordre de nature, c'est-à-dire l'expérience type du corps, c'est la chute. C'est la chute. C'est le poids du corps. Le corps dégringole. C'est la chute. Alors là, vous avez l'expérience brutale du corps. Et quand un autre corps dégringole sur vous, d'un animal puissant, vous avez l'impression, vous voyez, du corps, parce que votre corps, je vous avais dit ce matin, vous apparente au corps de tous les animaux. Donc c'est possible que vous faites l'expérience du corps, la chute de l'animal sur vous. Et les deux se tiennent, hein. Parce que la chute, c'est quelque chose de violent, toujours. Vous tombez parce que quelqu'un vous a poussé. Parce que il y a eu, vos jambes ont faibli tout d'un coup. Quelque chose un peu violent. Et c'est pour ça que je disais l'expérience dernière du corps, vous voyez, le corps a quelque chose de spécial, ce qui me met en liaison avec toute la corruptibilité du monde physique. Et c'est une expérience du corps, l'expérience de la corruptibilité. J'aime mieux réserver la souffrance pour le vivant, vous voyez. J'essaie de saisir, c'est ce que j'ai essayé ce matin, de saisir ce qui caractérise le corps. En quoi le corps de l'homme est. C'est la matière. Je suis en connaturalité avec tout ce que représente le monde physique. Et le philosophe parlera des éléments. L'eau. Terre, le feu, l'air. Je peux parler aussi des éléments chimiques. Tout ça est en moi. Je suis en parenté avec tout cela. Et c'est pour ça que quelquefois on essaie de guérir l'homme avec des éléments chimiques. C'est gros. C'est du côté matériel. Parce que du côté de ma vie, je suis tout à fait autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a une parenté. Mais cette parenté est plutôt dégradante. Le corps, comme corps, est toujours un peu dégradant. Il va vers la chute. Il va vers la mort. Vous voyez, je vous dis ça rapidement. Alors, il y a une autre chose à donner. Est-ce que l'expérience de la partie du tout est-elle une expérience immédiate? Bon, j'ai l'expérience de mes limites, des limites de mon corps, ça, c'est sûr. Par le poids, et surtout quand un autre corps dégringole sur moi, j'ai l'expérience que je suis une partie à ce moment-là, et que c'est un gros corps qui dégringole et qui m'emporte dans sa chute. Associé à sa chute. Donc j'ai l'expérience de la juxtaposition quantitative d'une partie qui peut s'ajouter à une autre partie. Et on peut former une masse. Alors l'expérience du tout de l'univers, ça, c'est beaucoup plus délicat. Par le regard, j'ai l'expérience d'un certain tout, mais pas plus. Il y aura une vision de sagesse, un jugement de sagesse, alors qui se fera à partir de l'acte créateur de Dieu. Je verrai bien que je suis parti d'un tout. Donc au sens fort, le corps parti d'un tout, conclusion d'une vision de sagesse. Mais il y a une certaine expérience que je suis une partie dans ce tout. La preuve, c'est que je dégringole, je tombe par terre. Et par terre, je ne peux pas tomber plus bas. Mais on pourra mettre sur une pente et je dégringolerai encore. Et au bord de la mer, je dégringolerai encore. Alors quel est le fond dernier? Je ne sais pas exactement. Donc je n'ai pas l'expérience au sens absolu du tout. Mais j'imagine très vite le tout. Et que je suis une petite partie là-dedans. Vous voyez, quand vous êtes dans un ouragan, quand vous êtes pris dans un cyclone, vous avez vraiment l'expérience d'être très peu de choses en face de la violence de ce cyclone. Et que votre corps est emporté. Donc, vous voyez, ça, je suis d'accord que cette expérience du tout plénière, elle ne se fait que lorsque je regarde tout ce que je vois comme créé. Et je me demande si notre univers physique a une certaine unité. Parce que le tout implique une certaine unité. Or, je n'ai pas l'expérience de l'unité de notre monde physique. Je ne sais pas. Quelle est la figure de notre monde physique? J'en sais rien. Je l'ai jamais vu. Il faudrait être en dehors du monde pour pouvoir la comprendre. Oui. Or, je suis en dehors du monde grâce à un jugement de sagesse. Mais seul un jugement de sagesse peut me donner cette vision extérieure au tout, à l'univers. L'intelligence humaine, à partir de l'acte créateur de Dieu, peut comprendre les limites de notre monde physique et comprendre que notre monde physique étant limité, terminé, a donc une figure. Ça, c'est sûr, ça ne peut pas être autrement. Il est un tout, et l'essentiel considéré comme, puisque c'est le cercle qui est la figure la plus parfaite, si le monde est parfait, il doit impliquer, il doit être rond. Mais j'en sais rien. Et toute figure doit avoir un centre géométrique. Alors quel est ce centre ? à l'homme, à la nature humaine. J'en sais rien. Philosophiquement, je ne fais pas la philosophie des possibles. Je philosophie à partir de mon expérience, de ce qui existe. Alors, à partir de là, je peux aller assez rapidement sur les autres questions posées. Quelle expérience propre du monde physique, donc du corps? J'ai dit la chute. Être mu. C'est le mouvement. Et dans le mouvement, être mu, c'est l'expérience la plus forte du mouvement. Donc pour moi, très souvent, c'est être mu, la chute, qui est une expérience très particulière. Le poids de la réalité qui tombe. Dans le monde physique, c'est toujours cette expérience de ce qui est mu, qui est l'expérience première de notre monde physique. Et dans ce monde physique, on expérimente un vivant. Mais l'expérience fondamentale de notre monde physique, c'est le mouvement. Être mu. Et c'est à partir de là que, de fait, le philosophe pourra préciser que tout ce qui est mu implique la matière. Alors comprenez bien, ça, c'est une découverte du philosophe à partir de l'expérience de ce qui est mu. Mon expérience ou l'expérience de la chute des corps. Une pierre qui dégringole. La chute des pierres. Je le vois, ça. Je vois pas qu'une pierre reste arrêtée dans l'air. Je pourrais voir ça dans un cirque, parce qu'on fera bien, on cachera tout pour... Je dirais, il y a un truc par derrière. Parce que normalement, elle tombe. J'ai cette expérience, normalement. Une pierre qui elle tombe. Et si je vois une pierre qui s'arrête, je dis, oui, un filet, je le vois pas, c'est très subtil, mais il y a quelque chose qui l'arrête. C'est bien évident. Je ne veux pas penser tout de suite au miracle. Non, Dieu ne fait pas un miracle comme ça. Enfin, suspends une pierre pour montrer que la pierre est belle. Non, c'est sûrement pas. Ça peut être un prodige, vous savez, il faut distinguer les prodiges et les miracles. C'est peut-être un prodige. Le témoin de faire des prodiges pour attirer notre attention. Alors lui, c'est pas contre nature, c'est préternaturel. Alors il peut, par une force magnétique supérieure à notre monde physique, attirer des poids lourds vers le sommet. Et ça, c'est pas une expérience. Tout de suite, c'est pas... philosophiquement, je m'arrêterai pas à ça, parce que je verrai que c'est pas comme ça que ça se passe habituellement. Le ut in pluribus, hein. En expérience du monde physique, c'est capital. Ut in pluribus, c'est-à-dire ce qui se passe ordinairement. Cette fameuse parole que prend les philosophes, une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est du gros bon sens. Quand vous avez une expérience, une seule expérience, vous ne pouvez rien dire de plus. Et j'ai vu ça. Je ne peux pas partir de là faire de la philosophie. Je suis obligé de multiplier les expériences. Tout le temps. Et je ne peux induire qu'en multipliant les expériences. Mon intelligence ne peut s'interroger qu'en multipliant les expériences. Une seule expérience me met pas bas. Je peux pas chercher à répéter cette expérience, on verra. Mais non, je peux pas la répéter. Une fois. Ça, c'est très très important. Ce que je vous disais en terminant, le monde physique et le corps, c'est le monde de la multiplicité. C'est le monde de la multiplicité. Je ne peux pas connaître la matière par une seule expérience. Impossible. Il ne faut pas. Je demanderai toujours de répéter. Tu restes appeler ça l'expérimentation en science. On doit répéter. Tant qu'on ne peut pas répéter, ça ne sert à rien. Je ne pourrais pas partir de là à induire une loi. Impossible. Il faut répéter. Et ça, ça provient justement du monde physique. Donc du corps lié à ce monde physique. Qui est le monde du mouvement et de la multiplicité. Et à partir de ce mouvement et cette multiplicité, je dirais que tout corps physique, donc le corps humain, en connaturalité avec tout le monde physique, implique la matière. Alors, la matière, au sens philosophique, je ne l'expérimente pas. C'est mon intelligence qui la saisit comme un principe fondamental. Vous n'expérimentez jamais un principe. On dira, dans un sens courant, c'est une vue de l'esprit. C'est très dangereux de dire ça, mais c'est, habituellement on dira c'est une vue de l'esprit. Alors on dira c'est une construction de l'esprit. Non, c'est le fruit d'une analyse. L'intelligence veut analyser pour comprendre en profondeur. Et c'est ce que je vous disais ce matin. Vous voyez, quand je passe de l'interrogation en quoi. En quoi le corps de l'homme. En quoi le corps de l'homme. Au terme de l'analyse, j'aboutis à la matière. Qu'est-ce que c'est que la matière? La matière, c'est la pure potentialité. C'est une potentialité radicale. Et radicale. Je ne peux pas descendre plus bas. La matière comme principe. C'est une potentialité radicale. Et donc une réceptivité radicale. Mais je crois qu'il faut dire une potentialité radicale. Tout mouvement implique un passage de telle détermination à telle autre détermination. Puisque tout mouvement implique un passage, il faut donc qu'il y ait quelque chose qui soit plus radical que le changement que je vois. Et ce quelque chose qui est plus radical que le changement que je vois, je dirais, c'est la matière. C'est le sujet matériel qui supporte les contraintes. Tout mouvement, alors dans l'analyse propre du mouvement, au point de vue philosophique, je dis, il y a toujours deux contraires. Il y a un sujet radical ou un sujet matériel. Il y a toujours ça. Tout mouvement implique de contraintes. Je passe de telle forme à telle autre forme, de telle couleur à telle autre couleur. Il y a un changement. Tout changement implique deux déterminations contraires et un sujet radical qui les reçoit. Et ce sujet radical qui les reçoit, c'est la matière. C'est ce qui est en puissance. Et la matière au plan philosophique comme principe, c'est donc le sujet radical qui est la pure réceptivité, la pure potentialité. Eh bien, le corps humain, quand je me pose la question en quoi, je dis, il est lié à tout notre monde physique, ayant en lui cette matière. Et en poussière, tu retourneras. La liturgie, quand elle dit ça, vous voyez, vous voulant qu'une de ces vérités, elle était tellement grosse qu'on n'osait plus la dire. Alors on a mis une autre formule, mais elle est belle cette formule. Tu es poussière, parce qu'elle est de l'écriture. Tu es poussière. Donc tu es matière. Sensiblement, la poussière. Quand vous ramassez la poussière, pas très, il n'y a pas grand chose, c'est la poussière. Tu es poussière, tu retourneras en poussière. Et c'est vrai. Quand vous envoyé la décomposition d'un cadavre. Tu es poussière. Tu retourneras en poussière. Tu es lié à ce monde physique. Et c'est la matière qui explique cette unité extraordinaire. Je suis lié par mon corps à ce monde physique. Que je le veuille ou que je ne veuille pas, c'est comme ça. Et le philosophe est là pour rappeler tout le temps ce lien fondamental avec le monde physique. Donc c'est pas étonnant que je suis dépendant du lieu. Parce qu'il y a des lieux insupportables dans l'univers. Des lieux où il ne fait pas bon à vivre. Et puis il y a des lieux admirables. C'est merveilleux. On désire y dresser sa tente. Et en plus, parce qu'on est charitable, celle de Moïse et d'Élie. C'est merveilleux. On aime ça. Il y a des lieux comme ça. Mais c'est très significatif, vous voyez. Le corps nous lie à cela. Nous lie à cette espèce de... Alors, considérons que le corps humain, parmi les réalités matérielles, et la réalité matérielle la plus parfaite. Ça, je peux le montrer. C'est la réalité matérielle la plus parfaite. Là, il y a une petite question aussi auquel je vais répondre tout de suite. Parce que je comprends très bien ça. De temps en temps, je fais exprès de vous dérouter, hein, pour vous éveiller, quoi. Alors, j'aime bien que ça se retrouve dans les questions, n'est-ce pas ? Ça fait partie de quand on enseigne, il faut bien vous réveiller de temps en temps, vous dire. Alors, pourquoi dois-je faire appel à la mort pour mettre en lumière l'expérience du monde physique, l'expérience du corps ? Du monde physique. L'expérience du monde physique, c'est que tout change. L'expérience du corps liée au monde physique, eh bien oui, c'est la mort. Parce que c'est la chute la plus radicale. On ne s'en relève pas. Donc c'est la chute radicale. Là, vous êtes obligé d'être lié à ce monde physique. Et tous, la loi commune, l'œcuménisme commun de tous les corps humains. Anciennement, n'est-ce pas, dans les bonnes formations religieuses, anciennement, maintenant ça ne se fait plus, il y avait tous les vendredis la méditation sur la mort. Et ça existait longtemps. J'ai dû faire tous les vendredis. Alors j'ai les carmes évincées, les têtes de mort sur la table pour me regarder et méditer pendant ce temps-là. Alors disant, tu es poussière, tu retourneras en poussière. Tu sais, ça. Et le dialogue se faisait comme ça. Et lorsque je vous ai fait ce matin, c'est une méditation philosophique sur la mort, à partir du corps. C'est pas commode, c'est pas très drôle. Mais c'est la réalité quand même. Le philosophe aime la réalité, et la réalité fondamentale à laquelle on ne regarde jamais. On n'ose pas regarder ça, mais pourtant c'est vrai. Je suis lié à ce monde physique. Mais je reconnais, ça c'est très important, que le corps de l'homme, et je dis exprès le corps de l'homme, pas le corps humain, le corps de l'homme est parmi toutes les réalités physiques que j'expérimente, la plus parfaite. C'est pour ça que c'est très délicat de soigner purement chimique, d'une façon chimique, un corps humain. Parce que vous voyez, quand il est malade, il est affaibli. Et vous lui faites porter quelque chose qui est très lourd à porter. Un corps chimique est beaucoup plus grossier que le corps humain. Il y a bien une communion, mais le corps humain est le plus parfait. Alors ça, on va tout de suite aborder maintenant le point de vue du vivant. simplifie. Alors il dit titi. J'avais oublié là. J'avais oublié. Il dit, mais ça va entre parenthèses. Et puis il pose la question. C'est le dit. Qu'est-ce ? Quand vous interrogez le corps de l'homme en disant qu'est-ce, vous ne pouvez pas dire la matière. Ce serait une erreur. Le corps de l'homme est un corps vivant. Et vous ajouterez après, c'est un corps humain. Mais vous faites poser la question du corps de l'homme. Mais il y a une tautologie. C'est pour ça que je dis d'abord corps vivant. Ensuite on verra. Et on dira le corps d'une personne. Je dirais pas le corps humain, parce que le corps humain, c'est... Vous voyez, c'est comme si... Si vous demandez qu'est-ce que c'est que la pierre, vous direz la pierre, mais c'est la pierre. Le corps humain, c'est un corps humain. Non, le corps humain, c'est un corps vivant. Qu'est-ce que ça veut dire, un corps vivant ? Et alors, c'est là où je comprends comment, matériellement, selon la cause matérielle, le corps humain, c'est une matière extraordinairement parfaite. C'est une matière unique. C'est très très étonnant, ça. C'est du reste très très beau à comprendre. C'est une matière unique. Uniquement en regardant la matière, l'organisation matérielle du corps humain est unique. C'est là où je trouve la plus grande diversité. Vous voyez ce que le père Teilhard aimait beaucoup en disant la complexité, la loi de la complexité, qui du reste, pour une point de vue scientifique, c'est pas lui qui l'a inventé, mais il l'a pris très fort. La complexité, la diversité, et dedans l'unité. Le corps de l'homme a une complexité la plus grande qui soit. Et la plus grande. Et dans cette complexité, une unité. Je ne dis pas l'unité la plus grande, mais une unité. Elle est même fragile, cette unité. Dans cette complexité. Parce que la perfection d'un être matériel ne peut se faire que par la complexité. La perfection du monde physique implique la complexité et la diversité. La perfection du monde physique, du corps, ne peut pas être dans la simplicité. Puisque justement, le point de vue de la matière implique la diversité et la multiplicité. Vous voyez, la matière répugne à la simplicité. C'est très étonnant, ça. Il faudra se poser la question pourquoi. Et je le constate. La matière répugne à la simplicité. Alors, ce seront les éléments qui seront simples. Je devrais analyser le monde physique pour trouver des éléments. L'eau a une certaine simplicité. Le feu a une certaine simplicité. Mais cette simplicité, c'est pas la perfection. C'est élémentaire. Ce sont des éléments. Tout ce qui est élément est élémentaire. Chose qu'on ne peut pas diviser. On ne peut pas aller plus loin dans l'ordre de la division. Je trouve là. Alors, il y a l'élément et le corps. Vous voyez, si je regardais en quoi le point de vue du corps humain, son lien avec le monde physique, je vois les deux extrêmes du monde physique, les éléments et le corps. Et le corps de l'homme, j'ajoute tout de suite le corps de l'homme. Le corps de l'homme est ce qu'il y a de plus.
à l'état tout à fait pur, ce que vous avez dit tout à l'heure. Je n'expérimente pas. Je n'expérimente que des matières vivantes. Dans notre monde, il faut aller dans la Lune pour expérimenter une matière qui est tout à fait en dehors de la vie. Mais pour nous, vous savez bien, c'est la constatation au Moyen-Âge. Albert le Grand, qui était un chercheur, explique ça admirablement. Il faut qu'il la regarde avec attention. Vous êtes au bord d'un lac, au bord d'un ruisseau. Il y a de la vase, pas très propre, de l'eau sale, de l'eau boueuse. Le soleil chauffe. Tiens, génération spontanée. Ça pousse à partir de là. Parce qu'il y a des microbes, parce qu'il y a des tas de choses là-dedans. Là, il y a une petite tétard qui apparaît. Alors, on avait parlé de génération spontanée. C'est pas vrai du tout. C'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas de simplicité qu'il y avait dedans. Une matière qui avait des semences, des graines, des... Il y avait quelque chose qui faisait que la vie était cachée dedans. Et la vie est apparue. C'est manifesté. Alors, voyez, la question que je me pose, mais qu'est-ce que c'est qu'un corps vivant? Au plan philosophique, hein, pas au plan scientifique. Je saluerai très bas le savant quand il s'agit d'un corps vivant, parce que je verrai qu'il fait une analyse étonnante. Mais il l'a fait surtout à partir d'un corps qui n'est plus vivant. Il faut le tuer pour l'analyser. Faites l'analyse du sang. Faut le séparer du vivant. C'est très curieux, ça. C'est extraordinaire, ça. Le philosophe est très attentif à ça. Le corps vivant, c'est un corps qui ne peut s'expérimenter que par le vivant. Vous êtes tous des corps vivants, moi aussi. Mais j'ai pas l'expérience de votre corps vivant. J'ai l'expérience de mon corps vivant. Et ça, je m'en aperçois très bien quand je commence à avoir des rhumatismes. Je dis, ah, il n'y a plus de souplesse. Je commence à, quand je vois quelqu'un qui vient, ah, tiens, ça se sclérose. Hein. C'est plus très vivant. Ça manque de souplesse. Et c'était la constatation, vous voyez, le corps cadavérique est plus lourd que le corps vivant. C'est curieux. Plus lourd. Il est plus lourd à porter. Je crois qu'il pèse le même poids, mais il est plus lourd à porter. Hein, il est plus étranger. C'est un vivant qui porte un cadavre. Il est étranger. Ah, c'est une chose très curieuse, du reste. Et ça montre bien, vous voyez, parce que quand je parle du corps de l'homme, je ne parle pas du cadavre. Le cadavre ne peut pas mourir. Hein. Le cadavre ne fait plus de chute comme cadavre. Il est cadavre. Donc je vois que le corps de l'homme a deux états. L'état cadavérique et l'état vivant. Deux états différents. Et je dis que l'état cadavérique va impliquer très vite une désagrégation du corps de l'homme. Il se désagrège. Il perd son unité. Et par le fait même, il perd son harmonie. C'est terrible. Il se désagrège. Donc c'est plus le corps de l'homme. Cette réflexion d'Aristote, qui est assez dure à porter au point de vue, mais qui est philosophique, hein, faisons attention, au plan chrétien, je ne le dirai jamais. C'est peut-être là, on verrait la frontière entre le jugement du philosophe et le jugement du chrétien. Quand Aristote dit, avec tout son réalisme, le cadavre, c'est un corps équivoquement, d'une façon équivoque. Vous voyez ? C'est très intéressant. Est-ce que c'est tout à fait juste? Parce que le chrétien ne peut pas dire ça. Je ne peux pas dire que le cadavre est un corps d'une façon équivoque. Parce qu'il reste le corps de mon ami. la résurrection du corps du Christ. Le philosophe qui regarde uniquement le corps de l'homme qui, par la mort, se désagrège, dira, c'est d'une manière équivoque, c'est encore un corps, mais c'est plus un corps. C'est plus le corps de l'homme, c'est le cadavre. C'est un corps séparé. Et le corps vivant alors, je dirais le corps vivant, a ceci de tout à fait particulier. Et là, j'ai vraiment une expérience de mon corps vivant. Et chacun d'entre nous avons l'expérience de ce corps vivant. Quand nous mangeons, toute notre vie végétative nous donne l'expérience d'un corps vivant. Nous mangeons, nous buvons, nous avons mal aux dents. Nous avons mal à l'œil. Vous voyez, là, la souffrance joue un rôle très important. Alors là, elle apparaît. Dès qu'il y a la vie, et dès que je regarde la vie, et dès que je veux connaître ce que c'est que la vie, puisque je me pose la question, qu'est-ce que c'est que le corps vivant de l'homme? Qu'est-ce que c'est que ce corps vivant? Je dis, ce corps vivant, il y a quelque chose de très très particulier, c'est qu'il a des expériences diverses. Il a une expérience de vie végétative. Je respire, je mange, je bois. Je pense, j'aime. réfléchissant tout de suite là-dessus, sur ces types d'expériences simples, très simples. C'est l'expérience que j'ai de mon corps vivant. L'expérience de l'autre n'a pas l'expérience de cette intériorité, l'immanence que je découvre dans le corps vivant et que je n'ai pas découvert dans le corps pris comme matière. Au contraire, le corps pris comme matière me met en présence de l'extériorité, de la juxtaposition, de la chute. C'est pour ça que je prends exprès, je marche. C'est l'inverse de la chute. Je dis pas je rampe. Mais ramper, ça peut arriver aussi. Hein. C'est encore une expérience vitale. La seule chose que je peux faire encore, c'est de ramper. J'en peux plus, mais je peux encore ramper. C'est quand même encore du mouvement. Hein. Il y a un mouvement immanent. Ce qui caractérise toutes ces expériences, c'est l'immanence. Ces expériences que je vois de l'intérieur. Je ne peux pas nier que respirer, manger, boire, ces expériences que j'ai d'une certaine immanence du vivant. C'est moi qui respire. Alors, c'est une expérience d'immanence et en même temps, par rapport à un milieu. Externe. Le vivant est lié à un milieu. Et toutes mes expériences de vie sont liées à un milieu. Puisque en respirant, j'assimile. En mangeant, j'assimile. Je fais quelque chose qui est extérieur à moi, devient à moi. C'est dans ça que là, j'ai l'expérience de l'immanence du corps. Alors je vois qu'il y a des degrés d'immanence. Il y a du plus et du moins. Parce que c'est qualitatif l'immanence. L'immanence, c'est la victoire de quelque chose que je ne nomme pas encore. C'est la victoire du vivant. Plus le vivant est parfait, plus il est immanent, plus il est autonome. Il y a donc dans le corps vivant de l'homme un appétit d'autonomie, un appétit d'immanence que je constate. On ne peut pas nier que ceci implique du plus et du moins, de la respiration, de la marche jusqu'à la pensée. Il y a du plus et du moins dans l'ordre de l'immanence. Et l'immanence, c'est la victoire contre la juxtaposition et l'opacité de la matière. La matière extériorise. Il n'y a pas d'immanence dans la matière. Elle juxtapose. Elle extériorise. C'est le propre de la cause matérielle. Elle reçoit. Mais elle reçoit sans immanence. Tandis que là, je constate une immanence. Et que cette immanence implique du plus et du moins. Alors, si cette immanence implique du plus et du moins, ah, c'est quand même très, très curieux et très intéressant à constater ça. Est-ce que l'immanence de la pensée, qui est l'immanence la plus parfaite, je ferme les yeux, je ne touche rien, je ne veux rien toucher, et je pense. Je suis tout entier en moi-même. Tandis que quand je mange, il y a toujours une assiette à côté de moi qui me donne du pain et qui est extérieure à moi. Et donc je suis relié à quelque chose qui est extérieur. Quand je pense, je peux emporter avec moi permanence. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que le corps vivant peut être totalement immanent? Mais non, c'est impossible. Il dépend d'un milieu. Le point de vue de la matière est toujours présent. Matière vivante, je fais la distinction. Il y aura un apport extérieur, matériel, que j'assimilerai. Et j'assimile ce que je peux assimiler, et ce que je ne peux pas assimiler, je le rejette. Donc, le corps vivant fait ce partage très étonnant de ce qu'il peut assimiler et de ce qu'il n'assimile pas. Et s'il fait ce partage, c'est parce que justement, il y a toujours en lui un élément matériel qui fait que l'assimilation n'est jamais totale. Elle n'est jamais totale. Elle n'est pas substantielle. Alors on dira philosophiquement, elle est intentionnelle. Là, c'est très beau de mettre un mot, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est justement que je reconnais que j'ai besoin de réalités extérieures à moi pour les assimiler, pour que mon corps puisse grandir, pour que mon corps puisse se fortifier. Il y aura toujours ce mouvement constant d'assimilation. Mais cette assimilation n'est pas totale, puisque j'assimile pour moi, en fonction de moi, et je rejette tout ce qui n'est pas assimilable. C'est extraordinaire, ça. C'est des choses les plus étonnantes du vivant. Il a soif d'autonomie, d'immanence, et cependant, cette immanence, cette autonomie n'est pas absolue. Parce que plus profond.